Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire, l'ancien président Roch Kabore a quitté Ouagadougou ce jeudi. Il est arrivé à Abidjan et devrait continuer demain sur Dubaï pour des soins médicaux. Des enseignants du privé dénoncent leurs conditions précaires de travail. Certains percevraient à la fin du mois un salaire de 20 000 francs CFA. Le Mali a entamé ce jeudi 3 jours de deuil national après l'attaque de Tessit qui a fait 42 morts dimanche dernier. Et puis, perturbation de la cérémonie de lancement du Front patriotique. Le parquet a été saisi, a indiqué notre invité du jour. Il s'agit de Maître Ambroise Farama. Il estime que la procédure devrait aboutir car même lorsque vous êtes député, en matière de flagrant délit, vous n'êtes pas couvert par l'immunité parlementaire. L'ancien président Roch Kabore a quitté Ouagadougou ce jeudi matin et est arrivé à Abidjan en confié à Oméga plusieurs sources proches de l'ancien chef d'État. Plus de détails avec Lamine Traoré.
Selon les informations de Oméga, Roch Kabore est arrivé vers 9h40. Il était à bord d'un vol commercial à Sky. Il était accompagné de son médecin personnel, Dr Evariste Dabiré, et d'un agent de sécurité de la police nationale. L'ancien président a été accueilli par l'influent ministre conseiller de Ouattara, Ali Koulibaly. Des témoins ont aperçu le cortège de Roch Kabore avec un motard quittant l'aéroport de Port-Boué. Ajoute nos sources et d'indiquer qu'il devrait continuer ce vendredi en début d'après-midi sur Dubaï, toujours en vol commercial avec comme destination finale Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, pour des soins médicaux. L'AIB, l'agence d'information du Burkina, avait indiqué que l'ex-président du Faso connaît des ennuis de santé et a donc manifesté le désir de se rendre aux Émirats Arabes Unis pour sa prise en charge. La question a été évoquée avec les autorités burkinabées qui, soucieuses de l'état de santé de l'ancien président, ont facilité l'organisation du dit voyage, avait précisé l'AIB.
La problématique de la prise en charge des personnes déplacées internes au Burkina Faso est au cœur du premier CASEM du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat. Ce cadre d'échange va permettre aux différents acteurs de trouver des réponses quant à leur contribution à la question de la prise en charge des PDI. L'ouverture des travaux a eu lieu ce jeudi 11 août à Ouagadougou, le compte-rendu de Gisèle Tirogo et Bernabé Cabré.
Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes avec pour corollaire de nombreux déplacés internes. Au regard de l'ampleur de la crise, il est impérieux que l'approche d'urgence humanitaire longtemps mise en œuvre par le gouvernement soit repensée pour tenir compte des personnes déplacées internes, selon Boukari Sawadgo, ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat.
La prise en charge des PDI, c'est une activité importante que le ministère prend en charge et des actions concrètes ont été déjà engagées. Nous avions parlé hier au Conseil des ministres de la cérémonie de remise officielle d'infrastructures communautaires au niveau des villes de Kaya, de Tougri, de Dori et de Kongoussi. Le gouvernement est véritablement engagé à ce que le ministère de l'Urbanisme joue sa partition pour répondre aux besoins en termes d'urbanisme d'habitat.
La question de viabilisation des zones spontanées sera débattue au cours de ce CASEM. En saison pluvieuse, les habitants de ces zones vivent un calvaire. Le gouvernement reconnaît n'avoir pas mis un accent particulier sur ses préoccupations de par le passé.
Nous reconnaissons que par le passé, nous n'avons pas mis un accent particulier sur cette question, si bien qu'effectivement, beaucoup de quartiers aménagés manquent d'infrastructures, connaissent des difficultés d'inondation. Et aujourd'hui, avec les orientations du gouvernement, cette question de prise en charge de la viabilisation est au cœur des débats. Nous allons travailler main dans la main pour soulager les populations dans ce domaine.
Plusieurs activités vont être menées lors de ce CASEM. Il s'agit entre autres de réaliser une synthèse des enjeux et défis liés à la croissance des villes impactées par la crise humanitaire. Les participants vont mener des réflexions sur des actions à mener afin d'amoindrir dans un court délai les souffrances des personnes déplacées internes. Un accent particulier sera également mis sur la visibilité des actions portées par le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat dans la gestion des conséquences de la crise sécuritaire. Cette session offre aussi une opportunité aux différents acteurs de valider le programme d'activité 2022 du ministère.
Comme annoncé en titre, des enseignants du privé dénoncent leurs conditions précaires de travail. Réunis au sein du syndicat national des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique, ils expriment leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de désintéressement du ministère de l'éducation nationale. Ils recommandent l'application de la convention collective de 1974. Cette interpellation a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Ouagadougou, le compte-rendu de Valérie Traoré et Abdoul Fattah Tiemtouri.
Des enseignants du privé payés en dessous du SMIG, des emplois instables et surtout l'inaction du ministère de tutelle. C'est le constat de ces travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique réunis en syndicat. Après des démarches auprès du ministère de l'Éducation nationale laissées sans suite favorable, les responsables du syndicat ont voulu donner de la voix ce jeudi face aux hommes de presse. Jean-Paul Bouda est le secrétaire général du SINATEP et NIFP.
Vu la note qui nous est parvenue, à mon niveau, je peux dire clairement que c'est un refus catégorique. Parce que c'est lui qui est chargé de faire appliquer ces lois. Et il nous renvoie chez les fondateurs. Pourtant, vous savez qui sont certains, je dis bien certains fondateurs, parce que ce n'est pas tous les fondateurs. Il y a des enseignants qui, à la fin du mois, ils perçoivent 20 000 francs comme salaire. Est-ce que ça peut passer?
Face à ce que vivent les enseignants dans le privé, le SINATEP et NIFP préconisent au ministre de l'Éducation l'application de la convention collective de 1974 et le respect des cahiers des charges. Koudougou Robert Kabore, secrétaire général du SINAFEB.
Cette procédure qui prend du temps pénalise nos camarades. Alors qu'il y a quelqu'un qui est garant de ces textes-là, d'abord qu'il fasse appliquer sans même qu'on ait besoin d'aller à l'inspection du travail. Mais si vous devez faire appliquer les textes de loi, vous refusez. À tout moment, nous partons à l'inspection. Allez-y à l'inspection du travail, vous savez. Et dans le privé, la procédure, on ne peut pas survoler l'inspection du travail. Et de l'inspection du travail, s'il n'y a pas de consensus, nous partons au tribunal. Mais ça prend combien de temps pendant que les camarades sont là en train de trimer? Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes dans un état de droit. Et le droit doit s'appliquer à tous les niveaux et à toutes les couches socio-professionnelles de notre pays.
Le syndicat national des travailleurs de l'éducation du privé et des enseignants non intégrés dans la fonction publique invite ses militants à rester mobilisés en attendant un éventuel mot d'ordre pour donner suite à ces revendications.
Abdoul Fattah Tiemtouri, du matériel roulant et d'équipements médico-techniques au profit du Centre national de lutte contre la cécité, un don acquis par le projet de renforcement des services de santé et le projet de préparation et de riposte au Covid-19 sur financement de la Banque mondiale et de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique. La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi à Ouagadougou en présence de Neymata Kabore et Valérie Guéret.
Ce don d'une valeur globale d'environ 453 millions de francs CFA va permettre de renforcer la prise en charge des malades oculaires. Ces équipements composés entre autres de matériel roulant et d'équipements médico-techniques vont améliorer le déplacement des équipes sur le terrain. Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé.
De logistique roulante, notamment de véhicules 4x4 qui vont améliorer la supervision, le déploiement des équipes sur le terrain. Aussi d'un laboratoire mobile qui devrait nous permettre sur le terrain d'investiguer l'émergence de certaines épidémies et de pouvoir les confirmer in situ plutôt que d'avoir à faire des prélèvements depuis le terrain et de les convoyer jusqu'au niveau de Ouaga ou de Bobo-Dioulasso.
C'est un laboratoire mobile qui vient renforcer les capacités en matière de surveillance épidémiologique. Depuis la réception provisoire en juin dernier, ce matériel logistique a permis de réaliser plus de 400 interventions de cataractes dans certaines villes. Patrice Sankara, chef de service du Centre national de la lutte contre la cécité.
Le centre a bénéficié du matériel qui va améliorer nos interventions, nos opérations de la cataracte, de glaucome, de trichiasis, de télévision au niveau du bloc. Et depuis la réception provisoire, galvanisé par ça, on a voulu essayer en allant au niveau de Manga. On a fait près de 192 opérations. Bon, ça nous a galvanisé, on a poursuivi à Houndé 150 et quelques.
À l'issue de la cérémonie de remise de matériel, le ministre de la Santé a visité le Centre national de lutte contre la cécité.
La suite de l'actualité nationale, on ne sait plus à quel conseil des ministres se fier. En l'espace d'une semaine, le gouvernement de la transition a réussi à nommer une même personne par deux fois à des hautes fonctions au sein de l'administration publique. Précision avec Khaled Ouedraogo.
Après le conseil des ministres de ce mercredi, l'administrateur civil Sombene Wende Ninkema semble avoir désormais deux choix. Aller prendre fonction comme secrétaire général de l'université Nazi Boni de Bopodoulaso ou se rendre dans la Tapoa pour occuper le poste de secrétaire général de cette province. En effet, en sa séance de ce 10 août 2022, le conseil des ministres l'a nommé lui Sombene Wende Ninkema, administrateur civil de formation au poste de secrétaire général de l'université Nazi Boni de Bopodoulaso. Et une semaine auparavant, le compte-rendu du Conseil des ministres au titre des nominations au ministère en charge de l'administration territoriale indiquait le choix du même agent de l'État comme secrétaire général de la province de la Tapoa. Erreur, omission ou promotion, nous sommes en droit de nous poser des questions, surtout avec les incohérences constatées la semaine dernière dans le rapport final du Conseil des ministres. En effet, plusieurs personnes ont traduit leur indignation sur les réseaux sociaux après la nomination lors de l'hebdomadaire Conseil des ministres de leurs proches décédés. Nommé préfet du département de Sampelga dans le Sénat, l'intéressé avait, quelques mois plus tôt, été rappelé à Dieu. À noter que lors du même Conseil des ministres, à en croire le compte-rendu, un secrétaire administratif s'est vu nommé préfet dans deux départements à la fois. Il s'agit des départements de Bomboroki et de Biéa, respectivement dans les provinces de la Kossi et de la Sicilie.
Et nommé en Conseil des ministres le 13 juillet dernier, Bernadette Adenio-Sermé prend les rênes de la province du Ioba. Elle remplace à ce poste Jean-Pierre Vogna, qui y a passé plus de 4 ans. La cérémonie d'installation a eu lieu mardi dernier sous la présidence du secrétaire général de la région du Sud-Ouest, Robert Zungrana, synthèse Ouaboué-Bakoua.
Madame Adenio-Sermé Bernadette.
C'est par cette formule consacrée que le secrétaire général de la région du Sud-Ouest, Robert Zungrana, installe le nouveau haut commissaire du Yoba ce 9 août 2022. Madame Adenyo Sermé Bernadette remplace à ce poste Jean-Pierre Vogna, qui y a passé jour pour jour 4 ans, 10 mois, une semaine. C'est dans la cour du haut commissariat que la cérémonie se déroule. Tour à tour, Sa Majesté Nafa II, la présidente de l'Amica des directeurs de chefs de service, le personnel du Haut Commissariat salue le combat mené par Jean-Pierre Vogna sur les différents fronts de développement. Nommé par ailleurs directeur général de l'administration du territoire, Jean-Pierre Vogna dit que les acquis sont aussi les acquis de l'ensemble des forces vives et il souhaite le même accompagnement à la nouvelle Haut Commissaire. Madame Adenyo Sermé Bernadette, précédemment secrétaire générale de la province du Gourmas, dit s'inscrire dans la continuité de l'amélioration des chantiers de développement ouverts par son aîné. Et pour elle, le défi sécuritaire est un sujet majeur sur lequel elle compte sur la contribution de tous. À Madame Adenyo Sermé Bernadette, le secrétaire général de la région Robert Zungrana note la disponibilité de l'administration, mais l'invite aussi à être perméable au conseil pour la réussite de sa mission. Des presse d'artistes, une remise de cadeaux au commissaire sortant et une plantation d'arbres ont mis fin à cette cérémonie de passation de haut commissaire au Yoba. Dano Ouaboué-Bakoua, Radio Omega.
L'actualité internationale au Mali, le président de la transition a décrété à compter de ce jeudi un deuil national de 3 jours en hommage aux 42 civils, victimes civiles et militaires de l'attaque terroriste perpétrée à Tessit dimanche dernier. À l'issue de l'attaque de Tessit, le gouvernement avait donné un peu plus tôt un bilan faisant état de 17 soldats et 4 civils tués. Après un nouveau décompte rendu public le mercredi 9 août, l'attaque a coûté la vie à 42 soldats et fait 22 blessés. Au Sénégal, la principale coalition d'opposition a annoncé hier qu'elle ne ferait pas appel des résultats des élections législatives du 31 juillet dernier. Les résultats provisoires publiés le 4 août ont vu la coalition présidentielle de Macky Sall
perdre la majorité absolue, une première dans l'histoire du pays. L'opposition a remporté 80 sièges au total, dont 56 pour Yewi Askawi. La coalition Wallou-Sénégal, dirigée par l'ancien président Abdoulaye Wade, a quant à elle remporté 24 sièges. Les chiffres définitifs doivent être publiés par le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction du Sénégal. Et en Guinée, le FNDC rejette sa dissolution et maintient sa manifestation du 17 août prochain après l'annonce du gouvernement de la transition guinéenne relative à la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution. Lundi dernier, une coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile a rejeté la décision et qualifié la junte de mafia politique dans un communiqué. Cette coalition maintient son appel à manifester sur toute l'étendue du territoire le 17 août afin de faire échec à une pérennisation du régime militaire en Guinée. Le gouvernement accuse le FNDC d'avoir recours à des actions violentes lors de ses manifestations contre la junte. La dernière manifestation, selon le gouvernement, a fait 5 morts.
La revue de presse.
Que disent les quotidiens du jour? Eh bien, nos confrères se prononcent sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme. On en sait un peu plus dans la revue de presse d'Asma Odao.
Lutte contre le terrorisme? Le Burkina Faso a-t-il encore des partenaires? S'interroge le quotidien dans sa parution du jour. Il écrit que, malheureusement, nos autorités restent toujours attachées à la France comme les prunelles de leurs yeux sans résultat tangible. Au lieu de diversifier le partenariat militaire avec la Chine, par exemple, on préfère chaque jour compter les morts, les veuves et les orphelins. Au lieu de se tourner vers la Chine pour un soutien militaire, on préfère demander des vivres. Finalement, qu'est-ce que nous voulons pour ce pays presque en lambeaux? Quel pays allons-nous léguer aux générations futures, puisque celles présentes ont échoué et payent actuellement le prix de leur compromission? Pauvre Burkina Faso, jadis pays des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, s'indigne le confrère Le Quotidien. Pour l'Express du Faso, les populations ne doivent pas croire que la lutte contre le terrorisme est exclusivement une affaire des forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas se tromper, car les terroristes n'ont pas d'amis. Voir des terroristes et les laisser partir tranquillement peut paraître dans un premier temps comme une tranquillité pour soi, mais à long terme, ce sera source d'insécurité. Et cette dégradation de la situation sécuritaire selon le pays, Damiba et Goïta sont dos au mur. Il poursuit que c'est le moment de sonner la mobilisation générale pour faire face à l'ennemi, unir les forces et bouter définitivement le péril terroriste hors de nos frontières. Et quelle est la main invisible indexée par Bamako? Se demande aujourd'hui au Faso qui mentionne entre les lignes. Selon les autorités militaires, il n'y a pas de doute. Les moyens utilisés, drones et artillerie, lors de cette incursion montrent que les assaillants ont bénéficié d'un appui d'une puissance étrangère. En clair, Bamako accuse une force étrangère d'avoir apporté un soutien logistique au bourreau des 42 soldats et civils. Outre l'insécurité, faisons un clin d'œil à la Guinée avec Sidoya qui souligne une réapparition de vieux démons se référant à la répression des manifestations qui ont fait 5 morts, plusieurs blessés. Le quotidien d'État fait remarquer qu'à voir ce qui se passe actuellement en Guinée, on se demande si le tombeur de l'ancien président vaut mieux que lui. On assiste malheureusement aux mêmes scènes que sous Alpha Condé, sinon pire.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Bonjour Maître Farama.
Bonjour Madame.
La fibre patriotique s'effrite. Au moment où on parle de Burkinabés qui tuent d'autres Burkinabés, on constate dans cette même société des jeunes qui s'en prennent à d'autres. À l'heure actuelle, nous enregistrons 2 perturbations d'activité des structures de la société civile. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela en droit?
Pour les comportements que nous avons connus, le fait d'abord de se mettre en bande organisée avec d'autres personnes, d'avoir un plan planifié et mis en exécution, c'est déjà une association de malfaiteurs. Donc cela est déjà une infraction du point de vue de la loi pénale. Donc le fait pour les Burkinabés de s'organiser par la violence et des voies de fait, d'empêcher à des Burkinabés d'exercer librement leurs droits civiques et politiques est passible de sanctions pénales.
Est-ce que dans le passé, le Burkina Faso a enregistré de tels faits à votre connaissance?
Oui, nous avons connu de tels faits par le passé. Et lorsque vous prenez l'histoire du Burkina Faso, notamment pour la période que je connais la mieux, sous la période donc, du régime de Blaise Compaoré, il y a eu effectivement, entre 1996 et 1998, lorsque le mouvement étudiant s'organisait à l'université pour contrer les réformes liées au programme d'ajustement structurel, il y a eu des milices qui étaient mises en place. Et à l'époque, je me souviens que ces milices-là avaient des deltas que les étudiants pouvaient identifier. Lorsque tu roulais et que tu voyais donc ces deltas derrière toi, il fallait te chercher. Ensuite, après 1998, entre 1998 et 2020, il y a eu également de nouvelles milices qui étaient mises en place pour traquer, faire peur aux membres donc des organisations démocratiques, des partis politiques, le collectif contre l'impunité et le collectif des organisations démocratiques, des masses et des partis politiques qui étaient en lutte pour exiger vérité et justice pour Norbert Zongo. Et cela s'est poursuivi jusqu'en 2014. Et lorsque le régime Compaoré tentait de passer en force à la modification de l'article 37, il y a eu des milices qui ont été montées et qui s'attaquaient aux autres citoyens burkinabés qui n'étaient pas favorables à cette modification de l'article 37. Donc jusqu'en 2014, ces milices ont existé. Et nous assistons aujourd'hui à un regain encore donc, d'activité des milices, et cela est très dangereux pour la paix et la sécurité donc, dans le pays. Parce que lorsque les citoyens burkinabés sont dressés les uns contre les autres, et bien entendu, et que l'État burkinabé n'est pas capable de leur garantir la sécurité, à un moment donné, ça devient effectivement donc des questions de légitime défense, et chacun s'organise, et c'est comme ça que facilement on en arrive donc à des crimes de génocide.
Et de votre sortie médiatique, vous avez dénoncé des jeunes qui ont perturbé l'activité. Est-ce que vous avez pu identifier formellement des éléments membres de ce groupe?
Oui, certains ont été formellement identifiés, des images sont disponibles, mais seulement peut-être c'est les identités qu'on ne connaît pas, mais au moins pour ce qui concerne donc Koussombo Ahmed, qui est à l'Assemblée législative donc de la transition, lui il est bien identifié. Les autres, il y a des images, et c'est vrai qu'on ne connaît pas tous leurs noms, mais pour lui au moins, en tout cas, il est formellement identifié.
Maître Faraman, quelqu'un qui s'adonne à ces pratiques encourt quel genre de sanctions?
Il encourt donc une peine de prison. Ce sont des sanctions délictuelles qui peuvent donc aller donc jusqu'à 5 années de prison.
Et par rapport à l'acte dont vous dénoncez, est-ce que déjà vous avez effectivement enclenché des procédures judiciaires? Est-ce que cela pourrait aboutir?
Oui, le parquet a été saisi ce matin même. Et pour nous, ça devrait aboutir. Et ce n'est même pas parce que M. Koussombo est député à l'Assemblée législative de la transition qu'il peut échapper à des poursuites, parce que la constitution burkinabé est claire. Même lorsque vous êtes député, en matière de flagrant délit, vous n'êtes pas couvert par l'immunité parlementaire.
Alors, pour l'organisation de cette activité, est-ce que vous n'avez pas déposé des documents auprès de l'autorité compétente, la police, pour protéger ou encadrer votre activité?
La direction générale de la police a reçu une demande de couverture sécuritaire de l'activité. Mais nous avons constaté à l'arrivée qu'elle était absente. Lorsque nous avons joint le commandant de la compagnie républicaine de sécurité, il a dit qu'il avait reçu des instructions de se poster pour intervenir, mais qu'il n'avait pas l'information qu'une demande avait été adressée à la direction générale de la police et qu'il allait se référer à sa hiérarchie avant d'intervenir. Nous avons attendu son retour en vain. 30 minutes plus tard, nous l'avons rappelé et nous a dit qu'il n'a toujours pas reçu d'instruction.
Merci, Maître Ambroise Farah.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà qui met fin à ce journal réalisé par Edwige Tiendre-Bego, à la retransmission Facebook Ibrahim Niaouné. Merci de votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.